Merci Jérôme, Samuel, Peter pour l'invitation. Donc en effet, je vais dans une petite demi-heure essayer de lancer quelques idées. Il y en a certaines que j'ai présentées déjà à l'école d'Aix et ailleurs. Il y en a d'autres qui sont en évolution. En effet, grâce aux discussions avec Samuel et un groupe de gens dans la région d'Aix-Marseille. Donc je suis de formation physicien, je suis de métier instrumentaliste et je travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc mon objet d'étude, c'est l'univers au-delà de l'atmosphère terrestre. Mais depuis 25 ans, je travaille dans le monde artistique à travers une organisation qui s'appelle Leonardo, qui a maintenant 40 ans. Et donc, en effet, je baigne dans deux regards des questions sur lesquelles je vais parler. Et ce que je vais essayer d'argumenter aujourd'hui, c'est un dada assez récent que j'appelle « intimate science ». Alors, je ne sais pas si en français on dirait « science intime », ça n'a peut-être pas le même sens. Mais je suis frappé que le travail d'artistes comme ceux de Sonus Locus, en travaillant sur le son, travaille en continuité avec le travail de chercheurs scientifiques. Donc c'est toute la question des prothèses et de la médiation de l'expérience humaine. Et donc, je vais, vers la fin de ma présentation, parler de ce qui me semble intéressant, un développement assez intéressant, c'est en effet l'appropriation par le monde culturel de données scientifiques, d'objets d'études scientifiques à d'autres finalités et de ce que j'appellerais l'environnement naturel, mais dans un sens élargi. Alors je m'excuse, mes transparents sont à moitié en français et en anglais, mais je vais parler en français. Donc, en tant que scientifique, je suis assez conscient que la démarche technoscientifique a des problèmes de fond aujourd'hui qui se traduisent par toutes sortes de questionnements sur aussi bien la méthode que le contenu de la science et de son contexte éthique. Et donc, en tant que scientifique, j'ai une réflexion personnelle sur une science qui couplerait le bon sens avec la bonne science, si vous voulez, en français, parce que la science est tellement institutionnalisée depuis 50 ans qu'elle a perdu, je crois, l'immédiateté sensorielle qui vraiment est le moteur qui anime le travail de scientifiques. Et en effet, en regardant le travail des artistes sur le web, ce qui s'appelle locative media aujourd'hui, je ne sais pas le mot français, toute la problématique de couplage des mondes virtuels et des mondes réels sont en effet pour moi des chantiers d'une presque ce que j'appellerais une nouvelle sensorialité. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je crois qu'il y a une évolution intéressante et que on peut regarder le travail de certains artistes par ce biais. Alors, comme j'ai dit, je suis instrumentaliste, donc en effet, ma façon de voir mon vécu est très très marquée par mon approche scientifique. J'avoue que j'ai une pulsion pour les environnements extrêmes. Et c'est un vocabulaire qu'on a commencé à utiliser dans Leonardo depuis un an et demi. On avait fait un groupe de travail avec des personnes dont Louis Beck, vous connaissez, et d'autres personnes, et il nous a semblé qu'on pouvait regarder là aussi le travail d'un nombre d'artistes dans des milieux très différents, comme en effet un miroir de cette pulsion vers les milieux extrêmes, que ce soit l'Antarctique, les nanomondes, le monde sans gravité ou d'autres environnements, où en effet l'extrapolation de notre vécu n'est plus un très bon guide pour appréhender ce qui se passe, et où en effet notre intuition qui est formée par notre vécu commence à faire fausse route. En effet, ça devient un problème vraiment de fond, de philosophie et de culture, de qu'est-ce qu'on nomme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. quand on entre dans des milieux que j'appellerais extrêmes, ou en effet qui sont suffisamment différents de notre vécu, qu'il faut vraiment faire attention de ne pas projeter sur un autre monde, le monde où on est. Quitte à dire, pour moi, une des frustrations que j'ai avec Second Life, c'est que je suis sûr que Second Life n'a rien à voir à ce qu'on voit en ce moment. Et donc, pour moi, l'exemple de Second Life est un peu ce paradoxe d'un milieu extrême. Alors, je parle souvent d'une vision de l'histoire des sciences par l'évolution des sens, l'augmentation des sens, leur extension et les nouvelles sciences. Mais récemment, et ça m'est vraiment venu après, j'ai eu la chance cette année d'être en Chine, en Inde et au Brésil. Et il y a des mots qui sont entrés dans mon vocabulaire, donc intimate science, en Inde, people science, il y a un mouvement of people science. On trouve sur le web la phrase crowdsourcing, je vais un peu en parler, c'est comme outsourcing, mais c'est du crowdsourcing. Et ce que j'appellerais la microscience, donc de la même façon où la Banque mondiale ne veut pas faire des microcrédits, il a fallu inventer d'autres formes d'institutions pour faire les microcrédits. Il me semble que la science aujourd'hui est tellement institutionnalisée qu'elle ne peut plus répondre aux besoins des personnes ou des communautés. Et donc l'idée de microscience est un mot qui est entré dans mon vocabulaire. Alors, toujours, j'aime commencer ce type de présentation avec quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ceux parmi vous qui m'avaient déjà entendu reconnaîtront l'image. Donc, je vais vous présenter l'histoire de l'univers en 8 secondes. Et vraiment, pour moi, c'est une apothée de la connaissance humaine. On a une vision aujourd'hui cohérente sur à peu près 15 milliards d'années, depuis ce qu'on appelle le Big Bang, qui est ici vu par une simulation, un état très chaud de l'univers il y a 14 milliards d'années, et cet univers s'est mis en expansion. Et on peut maintenant simuler dans l'ordinateur, avec toutes les données scientifiques qu'on a, cette évolution de l'univers. Et donc, si M. Bill Gates me le permet, je vais dérouler l'histoire de l'univers en 8 secondes. Alors, je m'excuse, il n'y a pas de son. Mais en effet, dans la période initiale de cette expansion, il y avait des vagues acoustiques dans l'univers. Et je voulais chercher sur le web le son des premiers millisecondes de l'univers en son, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà l'histoire de l'univers en 8 secondes. Alors là, ça ne va pas recycler parce qu'on ne peut pas rejouer l'histoire de l'univers une deuxième fois. Mais ce modèle de l'univers est consistant avec tout ce que nous connaissons en tant qu'astronome aujourd'hui. Alors j'ai une simulation artistique de la même chose que je vais jouer qui va aussi durer à peu près 8 secondes. Donc le Big Bang, où il y a une phase d'expansion de l'univers qui commence, qui est très rapide, la période d'inflation. La matière sombre dans l'univers commence à se condenser dans des filaments, dans des structures. Les premières étoiles commencent à naître. Ces étoiles dissèment dans le milieu interstellaire les métaux qui éventuellement vont permettre à des planètes comme la nôtre de se former à l'intérieur de galaxies. Et là, on se trouve maintenant avec ce modèle de 14 milliards de l'univers. Alors, le seul problème avec cette image, c'est un paradoxe scientifique, c'est pour faire ce modèle, la conclusion du scientifique, c'est qu'à peu près 3% du contenu de l'univers est fait de la même matière que nous, donc cette table, les choses que nous voyons. La conclusion qui est assez ferme aujourd'hui pour les scientifiques, c'est que l'univers est dominé par d'autres formes de matière et d'énergie que celles dont on est fait. Et c'est une vision qui inverse un peu la chose. En fait, c'est une révolution de Copernic poussée à la limite, où en effet, les humains faits de la matière qu'on connaît, les atomes, les molécules, on est vraiment une petite fraction de l'univers. Et donc, tout cet univers-là est complètement inaccessible à nos sens. Et c'est là où, en effet, démarre ma réflexion qui n'est pas neuve avec moi. Depuis des siècles, on parle de cette réalisation. Mais pour moi, c'est un peu ce modèle de l'univers est un peu l'aboutissement de cette réalisation. Et donc, en effet, en regardant le fait que l'univers autour de nous est fait de matière qu'on ne peut pas sentir avec nos sens, je crois qu'il est intéressant de parler d'un contexte large d'évolution des sens, aussi d'évolution de la méthode scientifique. Là, je n'aurai pas temps d'en parler. Et en effet, en regardant comment on utilise aujourd'hui tous les dispositifs techniques, un nouveau type de sensibilité qui est en cours de création. Cette pulsion vers les extrêmes, comme je l'ai dit, a été le sujet d'un colloque sur 3 jours à Prague en novembre. Vous trouverez le site web là en bas de la page. Il y a 70 présentations d'artistes et scientifiques. Les présentations ont été faites sur 3 chantiers, la cognition, la vie et l'espace. Donc, en effet, en regardant toutes les situations où les artistes ou les scientifiques se mettent dans des situations qui sont très différentes de la vie normale, que ce soit dans un contexte sociologique de stress, de guerre, que ce soit d'essayer de percevoir les nanomondes ou les milieux sous-marins. Et donc, je crois qu'il est intéressant de pousser cette réflexion. Et en effet, pour moi, un milieu extrême, et là, si vous regardez sur les web, il y a même des sociétés des milieux extrêmes, donc il y a des définitions très précises. Mais pour moi, un milieu extrême, c'est un environnement qui est suffisamment différent de celui où l'espèce humaine a évolué, qu'en effet, on commence à entrer dans des cognitions qui ne sont vraiment pas des projections du monde dans lequel, avec lequel on est familier. Ces milieux extrêmes, en général, nécessitent des prothèses, donc soit des scaphandres, soit des stations spatiales, ou pour les nanomondes, des microscopes qui permettent de pouvoir toucher à l'échelle d'atomes. Je crois qu'il y a un vrai dérèglement des sens. Donc, en effet, on entre dans des situations où nos sens donnent des données contradictoires. Dans la vie courante, on arrive à synchroniser le son, la vision, le toucher, tout ça dans une fusion qui nous permet de vivre. Mais dès qu'on entre dans un milieu extrême, cette synchronisation des sens, cette fusion des sens n'a plus la même raison d'être. Et donc, en effet, on se trouve dans des situations qui peuvent être très créatrices. Et je crois qu'une des choses qui pousse certains artistes à aller en Antarctique ou en espace, en zéro gravité dans l'espace ou dans les nanomondes, c'est en effet ce dérèglement des sens qui se passe dans ces situations. Et on a tout à apprendre à nouveau. Et là, comme je disais, pour moi, les mondes virtuels, les mondes en ligne, ne sont pas des extrapolations du monde physique. Parce que dans les mondes virtuels, les mêmes lois de physique n'ont pas lieu d'être. Alors malheureusement, dans la construction de la majorité des mondes virtuels, on applique les mêmes lois de physique de notre journalier, mais on pourrait imaginer toutes sortes de différents types d'organisation des lois de la nature dans les mondes virtuels. Et surtout, je crois que en imposant sur les mondes virtuels les mêmes lois de physique que dans le monde réel, on évite de vraiment redécouvrir les nouvelles possibilités de ces mondes. Et c'est là où je crois qu'on est tout à fait au début de l'exploration des mondes virtuels. Et donc, ma frustration avec Second Life. Alors, j'aime beaucoup ce diagramme du fromage de Ramon Gardens et Nina Zegledi. Donc c'est un schéma de scientifique. Donc en bas, c'est l'échelle de taille. Là, c'est l'échelle de temps. Donc les choses qui se passent lentement ou les choses qui se passent vite. Et nous, on habite dans ce petit fromage au milieu du diagramme. Il n'a pas lieu d'être au milieu. Mais l'univers est plein de choses qui se passent en dehors de notre fromage. Et en effet, dès qu'on essaye de passer du fromage à un milieu extrême, en effet, c'est là où la question est vraiment posée. Et là, pour moi, on est tellement biaisé par notre constitution physique qu'on ne se rend pas compte de toutes les choses qu'on ignore en regardant le monde. Donc rapidement, l'histoire des sciences à travers l'évolution des prosthètes, si vous voulez. Donc là, une image du télescope Hubble. Donc en effet, notre pupille a 1 mm de diamètre. Le télescope a une pupille de 2 mètres, donc on peut voir des choses qui sont très très faibles. Elles sont là, mais on les ignorait jusqu'au fait qu'on puisse aller au-delà de l'atmosphère. Là, le toucher à distance avec le petit robot Voyager, donc maintenant, si vous voulez toucher un rocher sur Mars, vous allez en ligne et vous pouvez le faire. Et là, c'est un télescope auquel je suis associé qui est en construction sur le dôme A en Antarctique. C'est un réseau de petits télescopes qui vont observer le ciel sur des échelles de temps de millisecondes. Donc des choses qui se passent une fois pour une milliseconde, puis après, elles disparaissent. Alors c'est vachement difficile à étudier. Et donc en effet, là, au pôle sud, on peut regarder pendant 4 mois en continu et vraiment dans des conditions qui sont très très bonnes. Alors là, c'est vraiment un télescope sur les échelles de temps très courtes. Des extensions de sens, donc là, à gauche, c'est une image en rayon X du ciel, donc il y a de la matière qui émet des rayons X qu'on ne voit pas avec les yeux, où là, en effet, le vent solaire qui est éjecté par le soleil, il y a maintenant des satellites qui sont à l'intérieur de ces éjections, et on peut écouter le vent solaire aujourd'hui. Si vous allez sur le web, il n'y a pas du streaming, mais il y a du playback, du son du vent solaire. Alors, pas loin de nous, il y a des nouveaux sens qui sont en train d'être construits. Là, au large de Toulon, dans la Méditerranée, il y a un grand observatoire qui s'appelle Antares en construction, qui fera éventuellement 1 km³, 1 km par 1 km par 1 km, et qui va permettre de détecter des particules qui s'appellent des neutrinos qui viennent du ciel. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu les détecter parce que ces particules interagissent tellement peu avec la matière que notre corps est complètement transparent à ce type d'énergie. Ou à l'est d'ici, en Italie du Nord, il y a le télescope Virgo qui est en construction. Là aussi, c'est 1 km par 1 km de taille et qui va détecter des ondes gravitationnelles. Une onde gravitationnelle, il y en a plein dans l'univers, il y en a plein dans cette pièce. Mais malheureusement, les wavelengths, les longueurs d'onde de ces ondes, c'est 1 km, 10 km, 100 km. Et donc, en effet, l'oreille humaine ne va jamais interagir avec ce type d'onde. Donc, en effet, un processus continuel d'expansion des sens humains. Et donc, en effet, en tant qu'instrumentaliste, j'ai vraiment ce sentiment que je suis complètement aveugle, que j'entends rien du tout, que l'essence, alors je ne sais pas qui a construit l'essence des hommes et des femmes, mais ils ont très mal fait, parce qu'en effet, nos sens sont faits pas pour sentir le monde, mais pour filtrer presque tout ce qui est dans le monde, sauf le tout petit élément d'information dont on a besoin pour se rencontrer, procréer, manger, aller à la performance ce soir, puis basta. Mais les sens ne sont pas faits pour vraiment révéler le monde. Et donc, en effet, pour moi, quand on parle de l'expérimentation sonore, je me pose la question de quel est vraiment le monde sonore complet qui n'est pas défini par notre sensorialité actuelle. On peut maintenant entendre à distance. Donc, en effet, avec le web streaming, on a des façons d'écouter à distance. Mais il y a toutes sortes de phénomènes dans le monde qui sont en train de se passer, qui pourraient être sonorisés. On a tendance à les visualiser plutôt que les sonoriser. Mais il n'y a aucune raison pour ça. Ça n'a rien à voir avec les phénomènes, seulement avec notre histoire culturelle. Et donc, en effet, je peux imaginer éventuellement, vraiment, une sensorialité sonore où en effet on met en son toutes les données qui viennent des instruments scientifiques, dont une grande partie maintenant sont disponibles sur le web. Donc en effet, cette nouvelle sensualité, cette nouvelle corporalité, vous la connaissez bien parce que vous connaissez par exemple le travail de Stellark avec son troisième bras et ses robots, où là c'est un travail des années 90 de Shaw Davis avec son scaphandre, pardon, qui permet de naviguer dans les mondes virtuels en respirant. Donc c'est une interface avec l'expiration et l'inspiration de l'air. Où là, les corps hybrides, alors là c'est le travail de Marceli Antunes Roca, qui est un performance artiste espagnol, qui a été en zéro gravité dans les avions d'entraînement des cosmonautes, et là il est en train de flotter au milieu de l'avion, et derrière lui il y a un écran, parce qu'en effet il s'est construit un exosquelette sur son corps. Ces mouvements sont traduits dans un monde virtuel et il est en train d'interagir avec son avatar dans le monde virtuel en zéro gravité aussi. Donc là, vraiment, c'est un dérèglement de sens, c'est le bon mot, il a été très malade. Parce qu'en effet, interagir avec un avatar qui est en zéro gravité comme vous êtes en zéro gravité, on n'a aucun vécu qui permet d'approcher ce type d'expérience. Le type de travail de Marco Pelham avec son macrolab dans les milieux naturels ou en Antarctique, où en effet il se construit une interface technologique avec toutes les ondes électromagnétiques, avec tous les phénomènes biologiques qui se passent dans ces environnements. Et donc en effet, là aussi c'est un studio d'artistes, mais dans une situation où, en effet, on n'a même pas une bonne description des phénomènes qui se passent. Et donc, pour terminer, je veux un peu donc, finir l'argument avec ce que j'appellerais donc cet appel à une science intime qui liait le bon sens et la bonne science. Et donc, en effet, c'est trois types d'idées. Là, c'est un travail japonais, Sensorium, qui est donné sur les tremblements de terre, qui ont été sonifiés aussi. Donc aujourd'hui, il y a des streams d'informations sur les tremblements de terre qui sont disponibles à tout moment. Nice est sur une zone active de tremblements de terre, mais je sais que je crois qu'on n'a aucune appréciation de ce qui est en train de se passer. On lit ça dans les journaux. La microscience dont j'ai parlé et le crowdsourcing. Et donc je voulais vous donner deux exemples de ce que j'appellerais intimate science. Peut-être avant de faire ça, je vais donner mon exemple. Donc pour moi, un exemple de intimate science, c'était mon grand-père qui était anglais, habitait dans le nord de l'Angleterre. Et je me rappelle quand j'étais gosse, chaque jour quand il allait au travail, on prenait le petit déjeuner ensemble, il mettait son manteau, il passait dans l'entrée de la maison. Il y avait un baromètre, il frappait dessus, et dépendant de ce que faisait la petite aiguille, soit il prenait son parapluie ou pas. Et donc, en effet, pour lui, s'il allait pleuvoir ou pas cette journée, c'était complètement dans sa démarche, il n'y avait aucune réflexion, c'était automatique. Donc, l'information barométrique était entrée dans son espace intime et faisait partie de sa perception journalière. Et donc, ma question, c'est comment généraliser ce type d'expérience. Et donc là, deux exemples de travail d'artiste. Donc, à droite, c'est le travail de Catherine Moriwaki, ce qui s'appelle Inside Outside Handbag. Donc, c'est un sac à main avec un microphone dedans. Quand le son va trop haut, il y a des lignes qui apparaissent sur le sac à main. Il y a un senseur de pollution dans le sac à main. Quand le niveau de pollution va trop haut, le sac à main change de couleur. Donc si dans le métro, tout le monde avait un sac à main, dès qu'on entrait dans une zone toxique, tout le monde commencerait à avoir des sacs à main rouges, et je suis sûr qu'on sortirait tout de suite. Donc là, vraiment, on ne va pas écouter la radio pour savoir s'il y a une alerte ou pas. On a vraiment, dans sa corporalité, quelque chose qui permet de sentir, d'avoir accès à ce type d'informations. le travail de Beatrice DaCosta, Pigeon Blog. Donc elle a équipé une centaine de pigeons avec des petits senseurs de pollution et avec un système de transmission Wi-Fi. Quand les pigeons, comme je suis sûr en France, comme aux États-Unis, il y a des gens qui font des compétitions de pigeons voyageurs. Donc elle équipe les pigeons voyageurs le matin, ils s'en vont, ils reviennent. Et en effet, ça donne une grille très très dense de mesures de pollution à travers ces pigeons voyageurs. Donc il y a une pléthore d'exemples de ce type en développement aujourd'hui. Alors est-ce que c'est des projets scientifiques ou est-ce que c'est des projets artistiques ? Écoutez, on ne va pas poser la question à Paul Cézanne. Qu'est-ce qu'il faisait en faisant ces images de son paysage ? Là, c'est des artistes qui font des images de leur paysage et on saura d'ici une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années, s'ils ont transformé, comme l'a fait Paul Cézanne, notre vision de notre paysage autour de nous. Donc, je vous ai parlé deux mots de ce qui s'appelle le mouvement of People Science en Inde. Si vous regardez People Science, vous trouverez le réseau en Inde. Et en effet, c'est un effort qui est distribué dans beaucoup de villages en Inde pour apporter aux villageois dans ces villages le type d'informations dont ils ont besoin pour leur vie journalière. On voit ce type de projet aussi au Brésil avec les projets de Digital Culture qui ont été financés par le ministère de la Culture au Brésil, dont le Human Project, qui est un projet qui est en cours, et là aussi vous le trouverez sur le web. Et il y a un groupe qui s'appelle Humbi Humbi au Brésil qui travaille sur ce même type de travail. Et donc en effet, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut imaginer d'ici 50 ans qu'on sera tous science, des producteurs de la science dont on a besoin pour notre vécu. Et je crois que c'est possible d'imaginer un open science de la même façon qu'on a open source software, open archives. Donc est-ce qu'on peut imaginer d'autres façons de connecter la démarche scientifique avec le vécu journalier? L'exemple de crowdsourcing, là je vous donne un exemple. Donc c'est une structure en ligne of Open Infrastructure Network Computing qui s'appelle BOINC, B-O-I-N-C. Si vous regardez avec un moteur de recherche, vous le trouverez. Il y a une vingtaine de projets où vous pouvez prêter votre ordinateur pour faire du calcul numérique lourd. Et il y a des centaines de milliers de gens qui prêtent leurs ordinateurs la nuit pour le faire. Il y a des modèles sur le climat. En échange, le modèle sur le climat vous donne les prédictions pour votre site. Donc, en effet, vous prêtez les CPU de votre ordinateur et en échange, on vous donne des éléments sur les prédictions climatiques pour votre site. Dans d'autres cas, il y a même la possibilité d'ajouter des données. Donc les personnes peuvent pas seulement prêter leurs ordinateurs, mais peuvent faire de l'analyse scientifique de leur environnement et l'introduire dans le calcul en cours. Donc ça s'appelle du crowdsourcing. Donc en effet, c'est exactement comme du outsourcing, mais c'est en effet dans les deux sens. Et c'est un nouveau développement qui a émergé depuis deux ou trois ans. Et je vais terminer ma présentation avec un exemple qui plaît beaucoup à Samuel, donc je vais le répéter. C'est pour moi un exemple magnifique de intimate science, qui est dans le domaine qui s'appelle maintenant bioacoustic ecology. Et c'est le travail d'un sound artist, d'un artiste sonore, David Dunn, au Nouveau-Mexique, qui est très connu parce qu'il a fait des disques d'enregistrement des sons sous les lacs. Donc il s'est spécialisé sur le son des crevettes. Donc il s'est développé toute une pratique d'artiste sonore pour enregistrer des phénomènes sous les lacs. Alors il travaillait aussi dans les forêts du Nouveau-Mexique et un jour il s'est posé la question complètement bête qui est quand un arbre est en train de pousser, est-ce que ça fait du son ou pas ? Et il a développé un dispositif de microphone pour tester cette question qu'il avait. Il a découvert que les arbres, en tout cas au Nouveau-Mexique, et je suppose que c'est pareil ici, en poussant, font des sons, mais surtout dans l'ultrason, dans les bandes, la bande ultrason. Et donc ici, c'est une séquence que je ne vais pas jouer, mais c'est le son d'un arbre en train de pousser. Alors ce qu'il a découvert, c'est que quand l'arbre n'avait pas assez d'eau, il faisait beaucoup plus de sons ultrason. Donc pendant les périodes de sécheresse, les arbres commencent à vraiment émettre beaucoup d'ultrasons parce que les cellules dans la cellulose, il y en a qui sont en train de se collapser. Alors il travaille dans un institut, le Santa Fe Institute, où il y avait Jim Crutchfield, qui est un chercheur dans les sciences de la complexité, et ils ont commencé à se poser la question, est-ce qu'il y a des espèces dans cette forêt qui peuvent entendre les arbres en train de pousser? Et la réponse, c'est sûrement oui. Il y a une espèce d'insecte, bark beetle, qui en effet a des récepteurs sous les, c'est pas des ailes, qui interagissent avec les ultrasons. Et donc, ils ont développé un modèle scientifique où un arbre en train de mourir attire les insectes à travers l'ultrason. Alors, c'est une hérésie scientifique parce que dans les écologies forestières, c'est normalement l'odorat, on croit que c'est chemical signaling qui reste en jeu. Et voilà un projet initié par un artiste, par un compositeur, qui mène à une découverte scientifique. Son disque sur le son des arbres en train de pousser va sortir, je crois, il est peut-être sorti en fin d'année de cette année, vous le trouverez sur le web. Et là, il a complètement ouvert un nouveau paysage sonore pour l'exploration artistique et l'exploration scientifique. Et je crois que je vais terminer là en vous remerciant de votre attention. Samuel.